Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Joseph Kabila dénonce ce qu'il qualifie de décision arbitraire prise par le régime de Kinshasa. L'ancien chef de l'État congolais s'exprime ainsi au lendemain de la levée de ses immunités de sénateur à vie par le Sénat, car accusé de complicité avec la rébellion de l'FC M23, vous l'entendrez. Santé. Le choléra fait rage dans le site minier de Lomera, territoire de Kabare dans le sud Kivu. Médecins sans frontières rapporte 105 cas par semaine ces trois dernières semaines. Situation consécutive au manque d'eau potable dans ce milieu, explique MSF. Par ailleurs, Médecins sans frontières s'inquiète de l'instabilité sécuritaire à Bouito, territoire de Rutshuru dans le nord Kivu, situation qui complique les interventions humanitaires. Pour en parler, nous recevons Mathilde Guéo, chef de mission adjointe de MSF à Goma. Madame, Messieurs, bonjour. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, brise le silence en s'adressant aux Congolais. Il s'est exprimé vendredi soir au lendemain de la levée de ses immunités de sénateur à vie par le Sénat, une décision de la Chambre haute du Parlement qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ex-chef de l'État congolais, notamment sur des accusations de complicité avec la rébellion de l'FC M23 active dans l'Est du pays. Dans un discours balancé hier vendredi sur plusieurs plateformes numériques, Joseph Kabila propose une solution globale à ce qu'il qualifie de crise profonde et multidimensionnelle qui déchire le pays. Le prédécesseur de Félix-Antoine Tshisekedi dit regretter également que Kinshasa prend des décisions sur base des rumeurs de sa prétendue présence à Goma sous contrôle des rebelles de l'FC M23. Je vous propose un extrait du discours de Joseph Kabila choisi par Blaise Ndongala Maenda.
Il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à diffamer, à diaboliser et à diviser pour gagner et régner, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance, quelles qu'en soient les conséquences sur la cohésion nationale ou en termes de vies humaines injustement brisées ou perdues. Une preuve, s'il en fallait encore, vient de nous en être donnée une fois de plus. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables.
Voyons à présent d'autres aspects de l'allocution de Joseph Kabila, résumé ici par Poli Mouzalia.
Dans un discours diffusé en direct sur YouTube, Joseph Kabila dénonce ce qu'il qualifie de gouvernance non orthodoxe sous le régime de son successeur Félix Tshisekedi. Selon lui, la corruption, le détournement des fonds publics et l'insécurité ont atteint des niveaux inédits. Il estime que la République démocratique du Congo est gravement malade et que son pronostic vital est engagé. Sur le plan sécuritaire, l'ex-président pointe du doigt la montée de l'insécurité dans plusieurs provinces, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Katanga ou encore le Maïndombe. Il accuse le pouvoir en place d'être responsable de cette dégradation de la situation sécuritaire, tout en dénonçant ce qu'il qualifie d'institutionnalisation du tribalisme, du népotisme et des discours de haine qui, selon lui, ont détruit la cohésion nationale. Pour sortir de cette crise qu'il qualifie de profonde et multidimensionnelle, Joseph Kabila propose un pacte citoyen en 12 points. Parmi ses priorités, mettre fin à ce qu'il appelle « dictature », restaurer l'autorité de l'État, rétablir la démocratie, neutraliser les groupes armés et exiger le retrait des troupes étrangères du territoire national. Joseph Kabila conclut en appelant à une mobilisation nationale pour, je cite, « sauver le pays ». Ce discours intervient dans un climat politique et judiciaire tendu alors que la justice militaire s'apprête à examiner les accusations graves portées contre lui, notamment ses liens supposés avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.
Pendant ce temps, nous apprenons que les milices dites Wazalindo qui combattent aux côtés de l'armée congolaise commettent des abus contre des civils dans la province du Sud Kivu. C'est ce qu'indique Human Rights Watch dans son rapport publié hier vendredi. Cette ONG internationale des droits de l'homme appelle les autorités congolaises à mettre fin au soutien aux groupes armés Wazalindo et assurer leur désarmement et l'obligation de rendre des comptes, car selon Human Rights Watch, les fonctionnaires qui fournissent sciemment des armes à des groupes armés responsables d'abus risquent de se rendre complices des crimes commis par ces groupes. Grâce à Mzati nous en dit plus.
Selon ces rapports, les combattants Wazalendo ont récemment commis des abus généralisés contre des civils dans le Sud Kivu. Ils ont battu, tué et extorqué des civils, parfois sur la base des critères ethniques. En mars et avril, ces combattants ont mis en place les barrières sur les routes principales reliant plusieurs villes du Sud Kivu, où ils ont harcelé les habitants et collecté entre 500 et 1000 francs congolais par personne. Le rapport souligne que bien que les Wazalendo reçoivent du matériel militaire du gouvernement, la milice vit sur les dos de la population, ce qui conduit à des actes d'extorsion. Au mois d'avril, Human Rights Watch dit avoir reçu des informations crédibles faisant état des combattants Wazalendo battant et fouettant des hommes et des femmes qu'ils accusaient d'avoir agi de façon inappropriée. L'armée congolaise risque de se rendre complice d'exactions en soutenant les milices Wazalendo, déclare Clémentine de Montjoy, chercheuse senior au sein de la division Afrique à Human Rights Watch. Elle indique que les autorités congolaises devraient cesser de soutenir la coalition Wazalendo, la désarmer, mener une enquête impartiale sur les abus et poursuivre tous les responsables d'exactions. Pour elle, soutenir la coalition Wazalendo a des conséquences mortelles et le gouvernement congolais devrait évaluer l'impact sur les civils de son soutien continu à ces groupes.
Au Maniema aussi, la population dénonce les abus et les exactions commis par des Wazalendo. En réaction à ces accusations, le gouvernement provincial rassure. Le ministre provincial de l'Intérieur condamne ces actes qu'il qualifie d'inhumains imposés à la population par les Wazalendo. Lawa Moselemani fait savoir que les autorités compétentes sont déjà contactées pour appeler les Wazalendo à la discipline sur toute l'étendue de la province. Le ministre provincial de l'Intérieur du Maniema s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Non, le gouvernement provincial est en train de déplorer les actes de vandalisme de nos frères Wazalendo. Justement, ils ont été reconnus à travers la RAD, mais ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ça va à l'encontre de nos attentes. C'est presque partout dans la province de Maniema où nous recevons des inquiétudes de leur anarchie. Voilà, aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'ils viennent de tuer un garçon motard au niveau de Kibombo. Hier, c'était dans le territoire de Kasongo où ils ont enlevé 4 personnes. Là, c'est monsieur Mandevu. Et à Kabambar, ce sont les hommes de Kabala qui ont même molesté l'administrateur du territoire. Là, c'est aller au-delà de nos attentes. C'est pourquoi nous demandons d'abord à la population de se mettre calme. Parce que le gouvernement provincial ne les abandonne pas. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, nous avons été à Kinshasa, où nous avons vu la hiérarchie d'abord des Wazalendo, le général Padiri. J'ai été même à l'état-major général et pour finir par le ministère de la Défense. Et partout là, on a promis qu'il y aura une délégation qui va venir pour qu'on puisse décider sur les modes de gestion de ces Wazalendo. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train de prendre des précautions pour pouvoir inquiéter tous ceux qui vont à l'encontre de la loi.
Parlons santé à présent. Je vous l'ai dit dans les titres, l'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF, rapporte 105 cas de choléra par semaine dans le site minier de Lomera, dans le territoire de Kabare au sud Kivu. Cette flambée des cas est enregistrée pendant les 3 dernières semaines consécutives. Le manque d'eau potable est la cause principale de la flambée de cette épidémie dans ce lieu où plusieurs milliers de creuseurs artisanaux vivent dans une proximité extrême. Décortiquons ce rapport de MSF avec vous, Alain.
Les conditions hygiéniques posent problème dans le site de Lomera, dans le groupement de Luhihi à Birava. Pour y faire face, MSF a déployé une équipe d'urgence. L'équipe a constaté que le choléra a pris une allure inquiétante à Lomera depuis fin avril. Les cas sont passés de 11 à 79, puis à 105, rapporte Médecins sans frontières. Le carré minier de Lomera, situé en amont du lac Kivu, est desservi principalement par l'eau du lac. Cette eau brute puisée du lac n'est pas chlorée. Pourtant, elle sert aux creuseurs artisanaux de boissons et à préparer les repas. Pour pallier à toutes ces difficultés, MSF, depuis le 9 mai dernier, assure la chloration et la distribution de 30 000 litres d'eau par jour. En plus, Médecins sans frontières a mis en place une unité de traitement du choléra avec une capacité d'accueil de 20 lits. Mais aussi, 8 111 personnes ont déjà été vaccinées et des kits hygiéniques de sensibilisation distribués. MSF rassure que son engagement va se poursuivre jusqu'à l'éradication de l'épidémie dans le site minier de l'Omera.
Autre nouvelle, à Kinshasa, certains habitants voisins des cours d'eau ont reçu des lettres de mise en demeure, leur accordant 3 jours pour déménager. C'est le cas de ceux de l'avenue de la Paix du côté de Montfleury, près de la rivière Mampenza, dans la commune de Ngaliema. Depuis mardi, leur quotidien a changé, ils déplacent ce qu'ils peuvent, mais impossible jusque-là de sauver le gros de leur investissement que sont leurs parcelles et ce qu'ils y ont érigé. Élise Kavira nous décrit la situation sur place.
Des habitants font des navettes, transportant matelas, bassins et autres valises, tandis que des fauteuils et autres biens traînent dans la rue. Ici, on se plaint du délai court accordé pour déménager. Maître Robert Badibanga, président du comité des habitants de l'avenue de la Paix, demande une mesure de grâce au gouvernement provincial au nom des habitants.
Ce qui est choquant, ils ne peuvent pas nous opposer une histoire selon que l'État récupère ces terres comme si c'est nous-mêmes qui avions confectionné ces titres-là dans nos maisons et ça passe. Nous nous adressons principalement au chef de l'État, également à monsieur le gouverneur, ces ministres qui nous écoutent. Il y a des préalables pour une démolition.
Un point de vue partagé par Simon Okunji, propriétaire depuis plus de 30 ans.
Jusque-là, nous ne sommes pas notifiés. Hein? Avant de prendre telles mesures, il faut d'abord chercher la conclusion pour d'abord déplacer les habitants.
Pour Agnès, habitant ici depuis près de 25 ans, la cause des inondations n'est pas le débordement de la rivière Mapenza.
C'est qu'on a donné de la visibilité à l'avenue qu'ils ont eu l'idée. C'est seulement à cause de cette maison qu'ils ont construite ici qu'ils démolissent toutes ces maisons. Le site de Chevaux s'est trouvé de ses côtés. C'est cette forêt qui bloquait l'eau. Maintenant que vous avez vendu la forêt, il y aura maintenant des dégâts encore plus graves.
Direction la province du Kwilu. Le trafic est coupé entre le centre-ville de Bandundu et son quartier rural d'Imalumbu. À la suite de l'effondrement depuis plusieurs mois du pont Bouza reliant ces deux coins de la province. Selon la population, ce dossier est resté dans les oubliettes, rendant difficiles les échanges commerciaux sur ce tronçon. Le gouverneur du Kwilu, qui s'est rendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation, s'engage à tout faire pour la reconstruction de ce pont stratégique sur le plan économique, dit-il. Irène Mboma nous fait le point.
Situé à 12 km du centre-ville de Bandundu, Dimalumbu alimente depuis toujours la dite ville en différents produits agricoles dont l'huile de palme, les maniocs, les maïs, les arachides et autres. Cependant, c'est depuis l'année dernière que cette localité est coupée de Bandundu. À la base, l'impraticabilité de la route due à l'écroulement du pont Bouza jetait sur un cours d'eau portant le même nom juste à la sortie de la ville. Pour passer à ce niveau, les usagers tentent d'emprunter des pirogues à 500 francs congolais. C'est dans cette optique que le gouverneur de la province du Kwilu s'est personnellement rendu jeudi sur les lieux pour constater le délabrement de ces ponts qui, selon lui, est d'importance socio-économique capitale pour la population. Le docteur Philippe Akamitouna s'est engagé à prioriser les travaux de construction de ces ponts afin de permettre la reprise normale du trafic sur ces tronçons routiers. Le numéro 1 du Kwilu s'est fait accompagner du vice-président de l'Assemblée provinciale Claude Kumpel et de toute sa suite. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le paysage de Yangambi, situé dans la province de la Tchopo, fait partie du couloir vert qui part du Kivu vers Kinshasa. L'annonce est faite par le directeur du centre de recherche de l'INERA Yangambi dans un communiqué de presse publié jeudi. C'est au terme d'une mission de travail organisée à Yangambi par une délégation de l'Union européenne et de la Fondation Virunga notamment. Notez que le couloir traverse plusieurs zones écologiques de la République démocratique du Congo, avec en son cœur le paysage de Yangambi situé dans la Tchopo.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. Après les révélations de RFI la semaine dernière, après l'enquête de Human Rights Watch, en début de semaine, c'est au tour de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, et d'Amnesty International de rapporter l'exécution d'une vingtaine de civils par l'armée à Diafarabé, près de Tenenku, dans la région de Mopti. Le 12 mai 2025, entre 23 et 27 hommes ont été interpellés sur le marché par les militaires maliens avant d'être égorgés et jetés dans des fosses communes. C'est ce qu'ont rapporté mercredi 21 mai les deux organisations de défense des droits humains.
L'invité.
Nous sommes au Nord Kivu. L'organisation humanitaire MSF s'inquiète de l'instabilité sécuritaire marquée par les affrontements dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, situation qui accroît le nombre des victimes collatérales et complique les interventions humanitaires. Pour en parler, nous recevons Mathilde Guéo, chef de mission adjointe de MSF à Goma, dans cet entretien avec Sifa Maguru. Elle décrit également la situation sanitaire dans la zone. Suivez.
Mathilde Guéo, bonjour. Nous parlons de la situation humanitaire dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Au regard de l'instabilité de la région, est-ce que les humanitaires ont accès aux zones de refuge des déplacés pour pouvoir les assister?
C'est une situation qui évidemment affecte directement notre capacité de mouvement et donc d'assistance. Les activités habituelles d'appui aux centres de santé périphériques ont été largement perturbées par les combats. Mais nos équipes MSF continuent à travailler donc à l'hôpital général de référence de Bambou et dans les centres de santé qui sont accessibles. Nous réfléchissons à pouvoir élargir l'offre de soins qui est initialement surtout centrée sur les patients pédiatriques, mais cela demande un approvisionnement. On a quand même réussi à finaliser une campagne de vaccination contre la rougeole sur la première quinzaine de mai. Malgré quelques interruptions liées au combat, nous avons réussi à vacciner près de 40 000 enfants, sachant qu'il y avait une épidémie de rougeole qui a commencé fin 2024. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre la sécurité des équipes et la réponse.
Quelle est la situation à l'hôpital général de Bambou que vous appuyez? Dans quel domaine précisément et combien de blessés liés aux affrontements sont pris en charge par vous dans cet hôpital?
MSF continue à travailler à l'hôpital de Bambou, où on prend en charge les urgences, les soins intensifs pour les enfants malnutris et également le centre de traitement rougeole. Et le reste de l'hôpital, qui est pris en charge par la zone de santé, continue de fonctionner également. Mais nous avons malheureusement reçu plusieurs blessés suite au combat aux environs du 15 mai. 20 blessés ont été reçus à l'hôpital général de référence, la majorité étant des civils victimes de balles perdues ou d'éclats d'artillerie et autres armes lourdes imprécises. Donc nous sommes particulièrement inquiets à l'idée que si les affrontements reprennent, il y ait de nouvelles victimes collatérales sur ce même schéma. Donc ces patients ont été pris en charge à l'hôpital du général de référence de Bambou. Certains ont pu être référés pour des raisons chirurgicales à notre hôpital de Rutshuru qui prend en charge ces cas. Ces références ont parfois été retardées car les mouvements étaient extrêmement difficiles à faire. Et voilà, nous sommes en effet vraiment, vraiment inquiets du fait que de nouveaux épisodes d'affrontements se passent dans des zones peuplées et engendrent de nouvelles victimes civiles. Notamment considérant l'afflux de population massif dans la zone de Bambou. Nous rappelons toutes les parties à respecter, les structures sanitaires, les structures humanitaires, les humanitaires et les civils dans ces affrontements.
Quelle est la situation sanitaire globale dans la zone de Bwito? Quelles sont les maladies prédominantes et comment évaluez-vous l'accès aux soins aux populations qui se trouvent dans cette région?
Plus généralement, la situation est également inquiétante dans le sud de la zone de santé de Kibirizi, où les mêmes types de combats ont eu lieu. Certains déplacements. À noter que dans la zone de Kibirizi récemment, il y a eu quelques cas de choléra. Donc évidemment, les conditions d'hygiène dans les sites de déplacement et dans les familles d'accueil sont particulièrement inquiétantes quant au développement possible d'épidémies de genre choléra. Donc dans la zone de santé de Bambou, comme je disais, il y a eu une épidémie de rougeole qui fait rage depuis fin 2024. On espère que la vaccination et la prise en charge de beaucoup de patients sur ces derniers mois, voilà, nous permettra de contenir une nouvelle explosion. Nous retrouvons cependant un certain nombre d'enfants dans les sites de déplacés qui n'ont pas été vaccinés à cause des suspensions liées au combat. Les maladies prédominantes restent le paludisme et les infections respiratoire, mais aussi la zone de Bambou est particulièrement touchée par la malnutrition. Certains acteurs ont dû se retirer ou en tout cas diminuer leurs activités suite aux coupes de financement. Nous sommes en effet inquiets par rapport à la situation nutritionnelle.
Merci beaucoup, Madame Mathilde Guéo.
La chef des missions adjointe de Médecins sans frontières, MSF à Goma, répondit aux questions de Sifa Maguru. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Alain Rungmushinj, Jean-Claude Nsiala à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.